Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Mais j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas. Les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabagne, professeur d'économie à Marseille, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec vous et avec ma consoeur Laurine Melka, professeure à Tourcoing, à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission n'est pas là pour vous emboucaner, mais pour vous éclaircir les idées. Bonjour Laurine.
Bonjour Étienne. Alors, emboucaner, ça veut dire quoi?
Alors, c'est un terme du Sud pour dire qu'on embrouille quelqu'un ou qu'on l'énerve ou qu'on le mène en bateau. On peut dire aussi engrainer quelqu'un. Ça fait partie de ces expressions qui, je trouve, font la beauté de la langue française avec ses multiples variétés locales et régionales. Langue française qui, pourtant, est parfois délaissée en économie. Surtout dans le monde des startups et de l'économie numérique qui utilisent de très nombreux termes anglais comme si la langue française n'était pas adaptée à cette économie.
La langue française était l'enfant à l'économie.
Process, backup,
update.
T'as pas un update?
La target,
call,
kick-off meeting,
method scrum,
happiness manager,
brand content,
office manager,
community manager.
Alors figure-toi, Laurine, que cette question d'un langage très anglicisé a été le point de départ de la création d'un podcast qui s'appelle Disruption protestante, créé et produit par Antoine Gouritain. Je l'ai donc contacté pour en savoir un peu plus.
Je m'appelle Antoine Gouritain, je suis créateur d'histoires sonores et auteur maintenant aussi.
Et avant d'être auteur, il a connu des expériences professionnelles dans des startups et des PME. Et peu à peu, il se rend compte que le langage de ce monde des startups et de l'économie numérique peut faire un sujet d'enquête et de réflexion, d'où son podcast.
Avec l'idée de s'intéresser au départ au langage et surtout de montrer quel était le quotidien et vraiment le ressenti, le vécu d'entrepreneurs normaux, je dirais, dans ces nouvelles technologies et surtout en province. Moi, c'était d'abord pratique parce que j'habite à Rennes de parler des entrepreneurs bretons, mais c'était aussi pour montrer autre chose que toute la mythologie qu'on peut nous montrer à Paris. Et puis le podcast entraînant d'autres rencontres et d'autres recherches et un autre travail, il y a un livre qui est dérivé de tout ça. Qui vient de sortir, qui s'appelle le Startupisme, le fantasme technologique et économique de la Startup Nation.
Et il ne fait aucun doute que l'utilisation de l'anglais dans ces milieux est massive.
Ce langage-là, je peux prendre quelques petits exemples. Bon, par exemple, dans les associations French Tech, on parle plus de repas partagés, mais de co-lunch. Bon, on n'assiste plus à des conférences ou à des moments de rencontres professionnelles, mais on assiste à des meet-up et du networking.
Donc là, Laurine, tu penses qu'on fait un enregistrement en studio, mais en fait non. Dans le langage Startup Nation, on fait un record post-co-lunch où on a fait du brainstorming et du networking pour le podcast. Et j'exagère à peine, hein, comme tu le sais, on utilise beaucoup l'anglais dans notre boîte de production à Nouvelles Écoutes.
Eh oui, et la question des anglicismes n'est pas nouvelle, Étienne. C'est même un sujet récurrent en France. Par exemple, la loi Toubon de 1994, qui, je cite, « cherche à protéger le patrimoine linguistique français ». Et cette loi proposait de franciser ou traduire tous les termes anglais utilisés en France.
Et ça, c'était avant que l'économie du numérique ne prenne son envol. Cette peur d'une langue française menacée par l'anglais, c'est un vrai serpent de mer. C'est même un fonds de commerce éditorial qui rapporte gros. Et pour en parler, j'ai rencontré Laëlia Véron.
Je suis enseignante-chercheuse en stylistique et langue française à l'Université d'Orléans et j'ai récemment sorti avec Maria Candéa un livre qui s'appelle « Le français est à nous » et qui parle notamment des peurs qu'on a à propos de la langue française.
Laëlia Véron s'investit énormément pour faire de la pédagogie et de la vulgarisation de cette discipline.
Un peu comme nous avec l'économie.
Ah mais carrément comme nous. Elle vient même de lancer un podcast qui s'appelle « Parler comme jamais » sorti le mois dernier en septembre. On s'est retrouvé sur le parvis de la gare de l'Est pour une interview au soleil. Et elle confirme sans détour que l'inquiétude sur la langue française est un bon filon éditorial à exploiter.
C'est une expression de Bernard Cerquiglini face à Alain Finkielkraut qui lui parlait d'un fonds de commerce réactionnaire. Et on le remercie. Merci Bernard Cerquiglini d'avoir pointé ça parce que c'est vraiment adhément une arnaque idéologique pour des raisons économiques. Parce que c'est vrai qu'il suffit de sortir un livre qui dit « Les jeunes, les immigrés, les femmes vont dévoyer notre langue, tout fout le camp, le français est menacé » pour que ce soit bien vendu, pour avoir les honneurs du Figaro, mais aussi d'autres journaux, avec des fois des délires qui ne sont pas du tout scientifiques. Je pense par exemple, il y en avait un qui racontait que de son temps, les jeunes n'inventaient pas de nouveaux mots. Bon, bah ça n'a absolument aucun sens. Et n'empêche que ça peut paraître dans un bouquin qui a les honneurs de la presse.
Et donc, contrairement à ses déclinistes, elle estime que la langue française n'est pas menacée par l'anglais.
On rêve, on hallucine, Franck.
On dream total.
On dream total. Et après, on s'étonne, ouais. Je vais te dire, que les cums à l'école, ils ne s'y retrouvent pas aux examens, ouais, qu'il y ait 80% d'échecs au BEPC, ouais. Et qu'on ait dû supprimer le bac jugé trop difficile. Ouais. Faut pas s'étonner.
En fait, toute langue emprunte des mots à d'autres langues. C'est un processus tout à fait normal.
C'est le principe de toute langue vivante d'acquérir de nouveaux termes, que ce soit des termes qui soient créés à partir de bases françaises, que ce soit en intégrant des variétés de français par rapport au français de l'Île-de-France qu'on connaît, que ce soit des variétés régionales, que ce soit des variétés francophones de plusieurs pays ou que ce soit des emprunts à des mots étrangers. Toute langue fonctionne par ses créations, par ses emprunts. Donc oui, c'est un facteur de vitalité du français. Après, quand il y a une langue qui s'impose plus que d'autres parmi ces emprunts, on peut s'interroger sur la place de cette langue. C'est vrai que l'anglais, là, est ce qu'on appelle une langue hyper centrale, qui est une situation de domination qu'on n'a jamais connue dans l'histoire des langues. Elle a un rôle spécifique. Mais encore une fois, il faut différencier les choses. On peut s'interroger sur la place de l'anglais, mais la logique des emprunts, notamment des emprunts lexicaux, surtout quand les termes sont francisés, quand ils sont de fait repris, adaptés à différents usages, est tout à fait normal.
Et ce processus de francisation, eh bien, on ne se gêne pas du tout pour le faire ici en France.
Il y a plusieurs phénomènes d'assimilation, d'intégration. Généralement, on va un peu franciser le mot. Par exemple, le mot « spoiler » qu'on entend souvent. Bien sûr, on reconnaît l'anglais « to spoil », mais on rajoute un « er ». On rajoute une flexion française comme « youtubeur »,« youtubeuse ». Donc, il y a ça. Des fois, il y a des changements de prononciation et des changements de sens comme « people », qui ne veut pas dire la même chose en anglais et en français. En français, ça veut dire « les personnes célèbres ». Alors qu'en anglais, ça veut dire les gens. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment un mot complètement emprunté à l'anglais ?
Donc il n'y a rien à craindre pour la langue française. Elle ne va pas disparaître sous l'hégémonie anglaise.
Non, non, loin de là. Le français est de plus en plus parlé dans le monde avec la croissance démographique. Donc il n'y a rien à craindre. Et pourtant, à chaque fois qu'on entend le vocabulaire très anglicisé du monde des startups et de l'économie du numérique, on ne peut pas s'empêcher d'être agacé ou de trouver ça un peu ridicule. Prenons un CV sur LinkedIn. C'est un exemple que donne Antoine Gouritin dans son ouvrage Le Startupisme.
Réinventer le métier d'insight, c'est passer du market research au people intelligence. C'est aussi de focus sur des insights actionnables et passer de l'étude, l'analyse au forecasting dans le but de co-créer.
C'est un jargon qui est très excluant et qui montre aussi la façon dont se perçoivent ces entreprises-là. Où avec les méthodes des startups et le langage des startups, avec tous ces anglicismes, on peut réussir et suivre cet idéal des startups.
Après, Étienne, c'est normal que se développe un jargon spécifique au monde du numérique. On retrouve ça dans tous les métiers.
Oui, bien sûr. Et c'est normal que ça nous échappe quand on est profane. Moi, quand on me dit que le garagiste a changé le joint de culasse, je sais pas du tout de quoi on parle.
Oh bah obligé, hein, vu que la pompe du cylindre d'embrayage risquait de buter contre la courroie du circuit de refroidissement de la roue de secours et des essuie-glaces.
Mais dans l'économie numérique, ça va plus loin que le simple jargon. Il ne s'agit pas simplement d'utiliser de nouveaux mots pour désigner des éléments techniques précis, il s'agit d'avoir recours systématiquement à l'anglais pour nommer des concepts qui existent en français. Mais alors, qu'est-ce que ça révèle ?
Ça peut révéler plusieurs choses. Déjà, ça peut révéler un entre-soi. Hein. Bernard Sarkozy parlait plutôt à propos des mots en ing, de mots de l'entre-soi. Mais c'est pareil, c'est l'idée que ça fait une langue qui n'est pas compréhensible par tout le monde. Et je comprends très bien que des personnes soient très agacées par cette langue-là, qui ne leur parle pas, qui est complètement incompréhensible. Ça peut aussi servir à masquer un vide de pensée, parce que ça va être souvent des mots qu'on comprend pas bien, qui vont résonner de manière assez abstraite. C'est pas souvent des termes très précis. Quand la députée à l'EUREM disait à François Ruffin « Le respect n'est pas votre core business », en réalité, ça ne veut pas dire grand-chose. À part, justement, avoir un espèce de langage managérial. Et je pense que c'est aussi ça qui agace les gens, parce que ça participe à une impression de langage des élites politiques ou économiques de langue de bois. Où en gros on dit plein de mots compliqués pour ne pas dire les choses telles qu'elles sont.
Est-ce que vous pourriez avoir un minimum de respect ? Je sais que c'est pas votre core business, mais pour la présidente que je suis.
Et puis à des moments, bien sûr, il y a le côté passer par l'anglais, ça va enjoliver, glamouriser quelque chose qui est pas du tout glamour. Ça me rappelle une chronique de Guillaume Meurice pour le coup, où c'était sur une je sais pas quoi, une start-up qui était en mode louer vos amis. Et justement, quand c'était Book a Friend. ou quelque chose comme ça, ou rent a friend. Enfin, c'était en tout cas un mot anglais. Et quand il dit, mais pourquoi c'est pas louer? Il lui dit, ça passe mieux en anglais.
Alors, moi, je parle plus de booker que de louer.
D'accord.
Réserver. Ouais. Parce que louer un ami, ça fait quand même bizarre quand on le prononce vraiment.
Et mais booker un ami, ça fait pas bizarre.
Ça fait plus d'impact. Il y a un côté anglophone, ça choque moins les gens.
Ben voilà, enfin, quelque chose qui va, on va être plus confronté peut-être à la réalité des faits en français et passer par l'anglais, vu que ça devient le langage de la Startup Nation, c'est une manière de rendre cool des choses qui sont pas du tout cool. Je pense que les gens s'en rendent bien compte et que ça, c'est normal que ça les agace. Mais c'est plus l'opération idéologique qui pose problème plutôt que l'anglais, à mon avis.
Opération idéologique, c'est fort comme terme. Ça suppose quoi? Qu'il y a une intention nette de dissimuler, de cacher une réalité beaucoup moins fun?
Je pense que c'est vrai dans certains cas. Des entreprises cherchent volontairement à atténuer une réalité peu engageante avec un vocabulaire plus positif. Par exemple, des investisseurs qui cherchent à financer de nouvelles entreprises. Eh bien, c'est une opération assez risquée, car une nouvelle entreprise peut se tromper et faire faillite. On parle en français pour désigner ces entreprises de fonds d'investissement ou de capital à risque.
Dans un milieu qui ne veut pas faire peur et qui vante aussi l'intérêt des financiers pour changer le monde, capital risque, c'est pas terrible. Donc certains nous expliquent qu'il faudrait plutôt changer le terme ou alors utiliser le terme anglais, garder le terme anglais. Abrégé en VC. Et puis il y a même des choses assez étranges pour brouiller les pistes ou pour le faire à moitié en français. On va appeler ça. Il y a une boîte bretonne qui se définit comme étant un fonds de venture. Alors je sais pas.
Donc en fait, ce langage propre au monde des startups véhicule tout un imaginaire positif. Idéal, basé sur la modernité, la liberté, la croissance, l'innovation, où tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est une sorte d'idéal méritocratique, où chacun avec du mérite et ses efforts peut réussir dans l'économie du numérique. Bon, c'est une belle histoire qu'on veut tous nous vendre.
Et c'est une dimension importante de cette culture startup. Il ne faut pas simplement vendre un nouveau produit ou un nouveau service, mais il faut raconter une histoire qui se veut touchante et émouvante. C'est le principe des talks et des pitchs.
Encore deux termes anglais.
Voilà. Les pitchs, ce sont des présentations synthétiques, courtes, condensées pour convaincre des investisseurs de mobiliser des fonds pour investir dans votre entreprise. Et des talks, ce sont des présentations très travaillées, très scénarisées devant un auditoire, comme les fameux TED Talks, qui sont évidemment disponibles en podcast.
Vous parliez des talks aussi. Alors là, c'est l'exemple de TED notamment, et c'est le même principe. C'est raconter une belle histoire. Souvent, c'est des histoires personnelles pour jouer avec l'émotion du spectateur, mais toujours pour vendre soit une position et du coup vendre des talks sur le circuit ou aux prochaines conférences, soit souvent vendre un produit tout simplement. On va raccrocher le produit à une belle histoire. Ça marche beaucoup dans les startups. Moi j'ai l'impression que c'est un art oratoire qui cache quand même un manque de profondeur des idées et surtout des idées qui sont souvent les mêmes, qui sont répétées. C'est vraiment un prêt-à-penser qui rentre dans des cases et dans les normes du marché des idées du moment.
Mais derrière ces belles histoires qu'on nous vend, cet idéal de modernité se cache une réalité moins reluisante et qu'on découvre depuis quelques années. Le monde des startups est très loin d'être fun. Antoine Gouritin prend l'exemple de Dan Lyons, journaliste qui a rejoint une startup appelée HubSpot et qui raconte le fonctionnement interne de cette boîte de publicité digitale.
C'est une boîte qui fait des outils qui automatisent la prospection de clients pour notamment des petits artisans. Et ils se sont retrouvés à devoir prouver d'une augmentation phénoménale du chiffre d'affaires avant d'entrer en bourse. Parce que plus on passe les étapes de levée de fonds, plus il faut quand même donner quelques garanties. Et cet outil qui permettait d'automatiser la prospection de clients, en fait, était vendu par des petits jeunes, des petits étudiants qui étaient contents de rejoindre l'univers des startups, mais qui se retrouvaient à être des téléconseillers, tout simplement, dans un immense plateau au sous-sol de HubSpot, où en fait les ventes se faisaient là.
Les conditions de travail n'ont donc rien de nouveau ou d'innovant. Et les méthodes, qui se veulent disruptives, ne sont pas si nouvelles non plus.
Mais c'est symptomatique, à mon avis, aussi de cette idée qu'ont les startups que en utilisant ces méthodes-là, donc avec ce jargon anglicisé, on va réussir. Réussir, c'est-à-dire lever des fonds, revendre éventuellement ou entrer en bourse, mais du coup faire beaucoup d'argent. Et peu importe si on s'intéresse à un secteur d'activité, que ce soit pour les plus sensibles, la santé par exemple ou l'éducation. On n'a pas besoin d'être spécialiste de la santé ou de l'éducation. Du moment qu'on utilise ces méthodes avec ce jargon, on va y arriver.
Et en termes de méritocratie ?
Ben, c'est pas terrible.
C'est intéressant de voir que les derniers succès financiers de la French Tech, ça reste des hommes blancs, passés par des écoles de commerce et même souvent par une grande entreprise ou un grand cabinet de conseil. Et c'est des gens qui se sont dit, tiens, il y a ce secteur-là qui a l'air un peu en crise. Et si on appliquait les méthodes des startups pour faire beaucoup d'argent et lever des millions?
Ouais, mais par exemple, celles et ceux qui vivent ça de l'intérieur, ils sont pas dupes quand même.
Non, effectivement. Et c'est ce que constate Antoine Gouritin. Tous ceux et toutes celles qui travaillent dans l'économie numérique peuvent employer ce vocabulaire très anglicisé, mais ils gardent une certaine distance critique vis-à-vis de ces discours. C'est à un autre niveau que se déploie avant tout cet idéal de start-upisme.
Je trouve que le pire en plus ne vient pas des startups ou des start-upeurs eux-mêmes, mais de tous ceux qui gravitent autour de ces startups, qui prennent le modèle pour exemple, je pense par exemple au département d'innovation des grands groupes, mais aussi dans les départements innovation des administrations, où on utilise ce langage-là parce que ça fait fun sans forcément se rendre compte de ce que ça recoupe derrière.
Or, ces grandes entreprises, ces investisseurs, publics ou privés, ce sont eux qui ont l'argent pour investir dans cette nouvelle économie.
Parce qu'on est sur un système de soutien à l'économie numérique en France qui tient beaucoup à des subventions publiques, à pas se fâcher avec la Banque publique d'investissement, pas se fâcher avec la collectivité du coin qui loue des bureaux pas chers.
Tu vas nous dire, Étienne, que quoi, c'est le grand capital qui tire les ficelles?
Ben oui, en quelque sorte. Si les grands groupes et les investisseurs privés ou publics attendent que vous adoptiez ce langage et cet idéal pour vous octroyer des financements, eh bien, vous êtes un peu dans l'obligation de vous plier à ces attentes et de continuer à utiliser ce jargon très anglicisé. Et ça forme un décalage un peu curieux entre ces gens de l'intérieur qui voient bien que tout n'est pas si rose et ces gens de l'extérieur qui adhèrent complètement à cet idéal.
Et ça rappelle tous les discours politiques autour de la Startup Nation.
Oui, ce langage permet d'incarner la modernité, le nouveau monde, l'innovation, en promettant la croissance et de nouveaux emplois.
Mais ils sont conscients qu'ils sont décalés avec la réalité?
Ça, c'est toujours la grande question. D'un point de vue économique, certaines astuces linguistiques peuvent être des stratégies intentionnelles. Mais d'un point de vue social, ce langage est une forme de distinction sociale, pour reprendre les termes de Pierre Bourdieu, célèbre sociologue français de la fin du XXe siècle. Savoir utiliser des termes anglais comme benchmarking, core business, free floating, peer-to-peer learning, c'est une façon de se distinguer, de montrer qu'on fait partie des classes supérieures économiques innovantes et modernes, même si ça reste un pur discours creux et vide. Et il faut maîtriser ce langage si vous voulez vous intégrer à ce groupe.
Les indices du Nasdaq sont tombés, Vénin ?
Oui, et ils confirment que notre courbe de rendement est tributaire des valeurs refuges et des règlements interbancaires.
Oh mince, je n'ai plus de mots économiques à leur dire et ils vont s'en apercevoir. Il faut vite que je trouve une expression professionnelle afin d'asseoir ma réputation au sein de l'entreprise.
Bon, alors Berthier, je vous écoute.
Et si on commutait les ratios excédentaires des stocks options ?
Non, ça ne veut rien dire du tout, ça, Berthier. Votre phrase n'a aucun sens. J'ai l'impression que vous êtes en train de le mener en bateau.
D'ailleurs, utiliser des termes anglais est une vieille stratégie des classes supérieures pour se distinguer, comme nous le rappelle Laëlia Véron.
Très souvent, on a une tendance, quand on observe des phénomènes, à penser qu'ils sont récents. Alors qu'effectivement, l'adoption des anglicismes, elle date depuis longtemps. C'est la langue chic depuis longtemps. Par exemple, référence littéraire, mais on le retrouve dans « À la recherche du temps perdu hein, » de Proust, « Le cercle des vers du Rhin », Odette qui veut employer des mots anglais parce qu'ils font chic. Donc ça dure depuis un certain temps.
Donc c'est normal que ça nous agace quand on entend ce genre de vocabulaire. En fait, on subit une violence symbolique de la part de ceux et celles qui se pensent si modernes et si innovants. D'un point de vue purement bourdieusien, on peut dire que le langage devient un outil de conflit entre... D'un côté, les classes dominantes à fort capital économique, qui utilisent de nombreux termes anglais pour mettre en avant leur modernisme, leur ancrage dans l'économie, et de l'autre, les classes dominantes à fort capital culturel, qui contestent fermement l'utilisation de l'anglais pour mettre en avant leur culture générale et leur connaissance fine de la langue française.
Là, on s'éloigne de toute considération économique, Étienne.
Peut-être, mais cette question du langage est pour moi à la croisée de trois dimensions. La dimension économique, avec des entreprises ou des acteurs de l'économie qui utilisent sciemment des termes anglais pour masquer une réalité peu reluisante dans une question de rapport de force pour convaincre des investisseurs ou pour motiver des salariés. La dimension idéologique, avec des partenaires financiers publics ou privés et avec l'État qui cherche à défendre un modèle néolibéral. Et la dimension sociale, où le langage est utilisé pour se distinguer socialement. Et c'est en cela que l'usage excessif de l'anglais n'est pas seulement énervant, mais qu'il peut présenter un vrai problème économique. Tout d'abord, si les investisseurs publics ou privés, prêts à mettre de l'argent dans de nouvelles entreprises en devenir, sont très attachés à ce langage anglicisé avec ses codes, ses termes clés, etc., au lieu de regarder les vrais indicateurs clés du potentiel de ces entreprises, je trouve ça plutôt inquiétant. Et ensuite, si ce langage persiste à être excluant, ça pose problème en termes de circulation des idées et d'accès de tous et toutes à l'économie du numérique. Et je ne vois pas très bien ce que l'économie du numérique a à y gagner. Je pense même que ce langage très anglicisé contribue à créer des externalités négatives, c'est-à-dire des conséquences non monétaires négatives. Si les idées du monde des startups circulent dans un petit monde fermé de l'entre-soi, elles vont très vite être redondantes et tournées à vide. D'un point de vue strictement économique, le français n'est pas un problème. C'est même l'inverse. Si l'usage de l'anglais contribue à un jargon professionnel opaque, c'est peut-être ça qui peut vraiment constituer un frein à l'économie du numérique.
Bobby, ce que je voudrais savoir, c'est le message que t'adresses au doyen de l'Académie. C'est quoi, en fait? C'est quoi?
Franck, le message, il est simple. Oui. Je transmets au guindois de l'Académie de laisser béton sa réforme qui nous flegons les yokus. Ou alors, il portera vraiment mal son nom d'immortel si tu saisis le message.
Ok, message reçu. Conclue, là.
Rendez-vous au prochain épisode de Splash. Pour jeter un pavé dans la mare, rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une émission de moi, Étienne Tabagne.
Co-animée et co-écrite avec moi, Lorraine Melka.
Produite par Nouvelles Écoutes. Réalisée par Aurore Meyer-Mailleux. Montée et coordonnée par Marine Rowe. Mixée par Laurie Galligani.
Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast. Et nous prenons toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite!